Émission en genre sur les ondes de Boulevard 102.1, ton émission du midi. Il est présentement midi 42 minutes, moins 14. Généralement soleil aujourd'hui avec le refroidissement éolien, c'est moins 27. Oh. T'as-tu frais de Pascal à ton retour de vacances?
Il y a quelque chose qui est arrivé qui m'était jamais arrivé. Tu sais, quand tu bois du slotch là, puis tu te gèles le cerveau,
ouais.
Ben ça m'a fait ça juste en marchant de ma voiture au bâtiment ici. Je savais pas que c'était possible. Le froid était mal glacial. Ça, il coupe les voies respiratoires puis donne des brain freeze.
Ah, exactement. Moins 9 faibles neige intermittente pour demain, jeudi, moins 4 de la neige et moins 10 ensoleillé pour vendredi. On a parlé avant la pause dans le caucus d'Antonine Iaccarini comment la situation avec les États-Unis est rendue problématique. Et aujourd'hui, on souligne le premier anniversaire de Donald Trump à la Maison-Blanche pour son deuxième mandat. Et qui de mieux pour en parler avec nous, Pascal, que Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Luc, comment vas-tu?
Je vais égoïstement, dans mon univers à moi, couper du reste de la planète particulièrement bien.
C'est fou, on est rendu à le préciser, c'est fou ça.
Oui, voilà, c'est à partir du moment où je sors la tête sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie à l'extérieur de la maison, là, j'ai, comme tout le monde, constate que ça brasse et qu'on a, pas juste au plan de la météo, mais de la diplomatie internationale, un refroidissement climatique assez important.
Oui, hein, parce que Luc, après un an à la Maison-Blanche pour Donald Trump, je dirais que les premiers mois, peut-être même le premier trois quarts de l'année, les politiciens des différents pays importants en Europe, ici au Canada, avec Mark Carney, on a essayé de flatter Donald Trump dans le sens du poil, mais là, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et je sens qu'il y a une très forte unité qui est en train de se créer entre les Européens et le Canada présentement.
Écoute, c'est à espérer. Quand on a un joueur qui, en si peu de temps, parce que je prends la peine de préciser, j'ai pas vraiment de surprise face à ce que fait Donald Trump aux États-Unis et sur la scène internationale. Pas de surprise, pourquoi? Pas parce que je suis plus fin que les autres, parce qu'il l'avait annoncé. C'était écrit noir sur blanc en politique intérieure ce qu'il allait faire, puis il s'est jamais caché de ses intentions non plus sur la scène internationale. Donc, c'est pas tellement ça qui m'impressionne, que la rapidité à laquelle il agit, autant en politique intérieure qu'en politique extérieure, son équipe était prête. On l'avait débarrassé de ceux qui parfois le retenaient, le gênaient, mettaient les freins. Ceux pour qui les normes ou encore les lois ou la Constitution, c'était important. Ces gens-là sont disparus entre le premier et le deuxième mandat. Et sur la scène internationale, je pense qu'on a vraiment réalisé ce dont on se doutait tous pour peu qu'on l'ait suivi, qu'on se soit intéressé à lui. Donald Trump, c'est un peu le bully dans la cour d'école. Tu peux lui partager ton lunch, tu peux lui donner ton argent ou ton allocation à chaque jour, il va toujours en demander plus. Tant que tu donnes, il prend. Et c'est ce que les Européens ont l'air de confirmer depuis, j'avais envie de vous dire, quelques semaines, quelques jours, et en particulier aujourd'hui. Donc, pour la première fois, les Européens qui savent qu'ils vont avoir à jouer en équipe, les Européens tentaient chacun à sa manière, pays par pays, de le flatter, de gagner un peu de temps, de sauver une entente ou d'éviter les tarifs. Mais là, ce qu'on constate, c'est que plus que jamais, il faut serrer les coudes. L'Europe, quand ces pays-là fonctionnent ensemble, ça peut encore être une puissance au plan international. Donc, la stratégie de Trump, c'est diviser pour régner. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber si on est du côté européen. Puis du côté canadien, M. Carney le sait aussi parce que c'est parmi les premiers qu'il a approchés après son élection, les Européens. Le Canada, maintenant, ça paraît étrange de le dire, est isolé géographiquement. On a toujours eu le voisin influent, le voisin qui était notre économie, qui était notre sécurité, qui était notre diplomatie. C'était pas toujours facile, mais on n'avait pas de voisin hostile. On est maintenant avec un voisin hostile, on fait quoi? On peut remettre en question l'ouverture de M. Carney sur la Chine. Le geste de rapprochement avec l'Europe, il ne peut pas être plus clair et plus nécessaire que maintenant.
Si on s'est appuyé pendant de nombreuses années sur les États-Unis, rarement et je pense qu'aucune des relations entre pays n'est faite que par gentillesse et bienveillance. Donc, ils s'attendaient fort probablement à ce qu'on leur rende quelque chose. Est-ce que leur rendre quelque chose, c'était le territoire, les ressources dans un avenir rapproché maintenant que Donald Trump est au pouvoir?
Écoute, la politique de sécurité nationale des États-Unis, elle est on ne peut plus claire. Trump dit « l'hémisphère ouest, c'est à moi ». Je laisserai, sauf des enjeux stratégiques hyper importants, je laisserai aux autres leur territoire. On dirait un peu, puis là, je l'assume pleinement, On dirait au plan international qu'on négocie avec entre familles mafieuses. Hein, c'est chacun délimite son territoire. Tant que tu ne joues pas sur mon territoire, ça va aller. Malheureusement pour Donald Trump, son territoire, c'est devenu nous aussi. Donc, il a menacé la Colombie, il a menacé Cuba, il a menacé le Venezuela. Dans l'hémisphère ouest, ben là, il y a le Groenland, c'est comme le gros sujet du jour, mais il y a cette carte qui a circulé, hein, un montage d'intelligence artificielle où Donald Trump présente le Canada avec les couleurs du drapeau américain. Donc, c'est très clair que soit économiquement, soit par la force, c'est le cas du Venezuela, ce qu'on veut, c'est contrôler l'Amérique. C'est chez nous. Donc, c'est ce qu'on appelait historiquement la doctrine de Monroe, mais là, c'est un cran plus loin que ce qu'on a vécu avant dans l'histoire.
Donc, on est sur la Donro maintenant, Luc la Liberté, comme les experts nous le disent. Pour rappel, on parle avec Luc la Liberté, spécialiste en politique américaine, les chroniqueurs ici à Boulevard, on l'adore. Luc, on parle beaucoup des élections de mi-mandat, puis on se dit que c'est là que Trump va tomber une première fois parce qu'il va perdre ses majorités. Mais il y a une excellente question de Dave, auditeur ici à Boulevard 101, qui mentionne « Si Donald Trump commence un conflit quelconque, est-ce que ça pourrait justifier de ne pas faire d'élection de mi-mandat? »
La réponse pour Dave et pour tous ceux que la question intéresse, parce qu'elle est pertinente et drôlement importante, la réponse c'est non. Il va y avoir des élections de mi-mandat. Si jamais Donald Trump souhaitait interférer avec le déroulement d'élections, ça ne se ferait pas en annulant l'élection. Donc, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, même pendant la guerre de sécession, on est en pleine guerre civile, il y a eu des élections aux États-Unis. Et il n'y a aucun mécanisme qui prévoit qu'on puisse ne pas avoir une élection. Maintenant, ce qu'on peut faire, je le dis dans des termes un peu plus vulgarisés, ce qu'on peut faire, c'est foutre le bordel. Un exemple de ce qui pourrait se produire pendant une élection, c'est ce qui se passe actuellement au Minnesota. Si vous faites le topo de tout ce qui se passe au Minnesota depuis 2-3 semaines, vous avez exactement le genre de situation qui pourrait faire que les résultats de l'élection seraient teintés. Parce qu'on ne peut pas dire que les élections actuellement se dérouleraient normalement si on est au Minnesota. On vient d'ailleurs d'ouvrir une enquête criminelle sur l'Attorney General, le procureur général du Minnesota. On a des militaires américains, c'est pas rien, on en a 1500 en réserve dont on dit ils peuvent s'en aller au Minnesota là, ils sont prêts. On a menacé de fédéraliser la garde nationale et on a la police frontalière qui est dans les rues et qui se comportent de manière à ce qu'un juge ait dû leur rappeler « Voici ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire avec des citoyens américains. » Parce qu'ils sont là pour la police frontalière et pour l'immigration, mais on les a vus arrêter et détenir des gens sans aucune justification, sans aucun mandat, puis sans leur laisser la chance de se défendre, ce dont on a tous le droit, autant aux États-Unis qu'ici. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est volontairement, je pense, provoquer la population, semer le chaos et nuire au déroulement dans une élection. En quoi c'est grave, puis en quoi c'est pas ce que je mentionnais tout à l'heure, en disant on n'a pas le droit d'empêcher des élections, c'est quand est-ce qu'on va certifier les résultats au Minnesota si jamais cette situation-là perdurait? Et je pense que le Minnesota est un test. Donald Trump a menacé d'autres États de faire la même chose. Il s'est essayé avant que les tribunaux le fassent reculer ou qu'on le condamne après coup. Ça a été le cas, par exemple, à Los Angeles. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais les prochaines semaines, autant en politique intérieure que les prochains mois, en politique intérieure, autant que sur la scène internationale, dites-vous que c'est déterminant. C'est loin, parfois, hein, la politique internationale, quand on se lève le matin, qu'on est dans son char bien fret en québécois, on se dit « je vais me rendre au bureau, il faut que j'aille faire l'épicerie, il faut que j'aille chercher les enfants ». Dites-vous que ce qui se passe sur la scène internationale va avoir un lien direct avec le déroulement de vos journées, éventuellement. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sain, et c'est de la politique on ne peut plus brutale et dure qui nous guette pour 2026.
Et ça, on dirait que c'est jamais aussi important que lorsqu'on est rendu dans les deux pieds, tandis que si on s'était intéressé à ça...
Et c'est bien normal. Chaque matin, quand on se lève, hein, c'est le train-train de la famille, du conjoint, de la conjointe. On a un travail à faire, on veut s'en acquitter. On a tout le quotidien qui, parfois, déjà est complexe. C'est quand on est en bonne santé. Certains ont des problèmes de santé aussi. Mais parfois, ça vaut la peine d'essayer de se hausser un peu au-dessus du quotidien pour dire... Attendez un peu, là, ça se passe pas juste aux États-Unis. Tout ça va avoir une incidence sur le Canada
mais je mets même
et sur
pas.
Le Québec.
je mets même pas ça sur la tête des gens. T'sais, moi, je compare ça à... Bon, c'est sûr que c'est plus dans leur cours bien souvent, mais je veux dire, en Europe, c'est un fil quotidien. L'international occupe autant de place que le régional. Puis ça, pour moi, c'est une grande faille que l'on a. Pour Donald Trump, il semble justement faire des tests. Il réussit ses tests, il sait qu'il peut aller plus loin, etc. Plusieurs politiciens, dans leur conversation, se sont dit, bon, faut pas appuyer là où ça fait mal, parce qu'il va sévir, mais en même temps, il faut rester droit. Mais c'est complexe. Ça semble être impossible à négocier avec un Donald Trump. Ça, on va être perdant, peu importe. On semble considérer que c'est quelqu'un qui va falloir qu'il parte si on veut rétablir les choses. Puis encore là, il va avoir des dommages pour les décennies à venir.
Et nous en sommes au point où, je me répète un peu, mais où il faut, entre pays, entre régions, se serrer les coudes. Le Canada a fait combien de concessions depuis que Donald Trump a été réélu? On est passé par cette foutaise et par cet argument bidon du fin d'année de la frontière pour dire on a même créé un poste qui n'existait pas.
Le tsar!
Le tsar du fin d'année. Ça n'existe pas, ça, comme fonction, mais on a copié le modèle américain. Aux États-Unis, on nomme des tsars. Hein, c'est le titre qu'on utilise. Alors, on a marqué le coup. Mais pendant combien de temps est-ce qu'on va faire des concessions ou on va tenter d'acheter du temps? Et ce n'est pas une condamnation de nos politiciens. D'ailleurs, on a joué un peu le bon cop, bad cop. Là, on a eu Doug Ford qui frappait d'un côté, Mark Carney qui flattait de l'autre. Et je pense que la stratégie était habile, mais je pense qu'on arrive à ce point de rupture. C'est que les politiciens le savaient déjà. Je suis certain qu'en Ontario, au Québec ou à Ottawa, on savait à qui on avait affaire déjà, puis on est en contact plus étroit que les chroniqueurs ou que les citoyens avec le gouvernement américain. Mais je pense qu'on a quand même essayé d'acheter du temps. Parce qu'à court terme, Donald Trump gagne, c'est clair. Nos options, nos solutions, c'est à moyen et à long terme. Donc, est-ce qu'on peut négocier avec Donald Trump? Rappelez-vous ça, en tout cas à mon avis. Est-ce que vous étiez capable de négocier avec un boulet dans la cour d'école, si c'était pas vous le boulet, bien sûr, mais étiez-vous capable de négocier avec le boulet dans la cour d'école? Moi, je sais bien qu'il y en avait, puis le jour où on s'est levé, ben ça a arrêté. Mais sinon, ben il nous attendait à chaque jour pour intimider puis prendre ce qu'il voulait. Je veux, je prends, c'est pas mal. Il y a plus de diplomatie en politique américaine, hein, sur la scène internationale. C'est de la force, c'est de la menace et c'est de l'intimidation. Pendant combien de temps on se divise en espérant le meilleur? Moi, je pense que le meilleur, on ne l'aura pas.
Non, exactement. Puis je crois que Mark Carney joue bien ses cartes à l'heure actuelle, là, en se rapprochant.
Jusqu'à maintenant, c'est un jeu d'équilibriste impressionnant, mais je pense qu'aujourd'hui, entre autres, il a passé un message qui était important et il l'a passé au bon endroit.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Luc, la liberté est toujours un bonheur et un plaisir de te parler. On en apprend toujours davantage sur les politiques américaines. Donc, on va continuer à suivre la situation de très près. Au plaisir de se reparler très rapidement, mon Luc.
Écoute, une bonne fin de journée à vous deux puis à tous les auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute aussi.
Merci. Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Plus que jamais, il faut se tourner vers d'autres partenaires. C'est l'endroit où on est. Si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, allez écouter le discours de Mark Carney à Davos aujourd'hui au sommet économique. C'est vraiment, ça frappe la cassure avec les États-Unis, clairement.
J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on accepte de perdre socialement. Je m'explique rapidement. Il y a un moment où il va falloir qu'on... Si on veut rester fort, rester droit en tant que pays, économiquement aussi, on va souffrir.
Oui.
En tant qu'individu, là, socialement, on va souffrir, que ce soit l'inflation, que ce soit le manque de produits, que ce soit... Faudrait peut-être... Je me questionne, je réfléchis, je brainstorm, je parle à des spécialistes. Je me demande s'il va pas falloir qu'on passe par un genre d'époque de ce type-là, où qu'on aura moins de choses sur les tablettes, où qu'on aura moins... Juste le temps de se réapproprier notre économie, de faire rouler l'économie par nous-mêmes un petit peu plus, d'être moins interdépendant de d'autres pays. J'ai l'impression qu'il faudrait manger à claque, mais que les politiciens ne sont pas prêts à nous la faire manger, même si ça peut être une partie de la solution.
Mais t'as raison, on va falloir souffrir économiquement. Il n'y a pas de doute dans mon esprit, il va falloir souffrir de certains de nos privilèges pour défendre nos valeurs.
Ben, je crois aussi, je pense qu'on est rendu là.
Ah oui, on
est vraiment rendu là. Ça va être dur à faire passer politiquement.
Très difficile.
Puis même nous, là, tu sais, du jour au lendemain, t'as pas ta banane, par exemple.
Très difficile, sauf que quand je regarde les commentaires des auditeurs, je pense qu'il y en a qui sont prêts à le faire parce que Donald Trump est vraiment dans l'exagération à l'heure actuelle. Puis tiens, je vous pose la question. 418-971-1021. Êtes-vous prêt à souffrir économiquement? Êtes-vous prêt à avoir moins de moins de produits sur les tablettes, de perdre votre petit confort, tiens, pour défendre les valeurs de la démocratie, les valeurs canadiennes, les valeurs québécoises aussi. Donc, écrivez-nous 418-971-1021. On a parlé énormément de Donald Trump, Pascal. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité, à part le président américain qui prend encore toute la place?
Oui, c'est sûr que là, c'est pas mal dans nos, dans nos nouvelles. On parlait de Mark Carney aussi, donc je ne reviendrai pas sur, oui, sur le dossier. On parlait de l'armée canadienne il n'y a pas longtemps à l'émission en ouverture. En fait, ce qui a popé aujourd'hui par rapport à l'armée, c'est qu'on a modélisé un scénario d'invasion militaire du pays par les États-Unis. C'est des réponses qui sont étudiées à Ottawa. Il ne faut pas s'affoler. On ne dit pas que c'est ça qui va arriver demain matin. Mais comme n'importe quelle armée, on travaille sur des scénarios. Et le Globe and Mail, au moment où Trump a fait une nouvelle allusion à la possible conquête du Canada, s'est mis à réfléchir sur ces dites questions. Ce serait la première fois depuis plus d'un siècle que l'armée canadienne est là-dedans. Donc, qu'on envisage cette possibilité-là. Une invasion est quand même différente de une prise de territoire. Il y a quand même une conquête qui est plus territoriale et de ressources dans ce cas-ci. Donc, c'est pas de faire du dommage aux gens qui y habitent. Mm-hmm. Faut faire attention. L'Université Laval, meilleur employeur au Canada, c'est un classement qui est affiché aujourd'hui. Donc, c'est Forbes, 11e édition du palmarès. Et on se hisse au premier rang ici avec notre université à Québec pour les meilleurs employeurs au Canada en 2026. C'est une première pour l'Université Laval. Le nom figure dans cette liste depuis plusieurs années, mais là, vraiment, on se classe première au Canada à titre de meilleur employeur. Et on est devant les entreprises comme Google, Microsoft, Hydro-Québec et Desjardins. À vous, mesdames et messieurs, de vous prononcer pour ceux qui y travaillent, à savoir, ouais, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai?
Ben voyons, c'est la sphère communication, mais enfin.
Premier de la liste. Quand repêché dans le fleuve à Québec, c'est loin d'être une belle histoire, celle-là, okay, mais oui, je dois en parler. Susanna Rocha Cruz. C'est un corps qu'on avait retrouvé près du quai 22 la semaine passée. Et là, on a identifié cette personne-là. Et il s'agit réellement de Susanna Rocha Cruz. L'affaire, c'est que son conjoint est accusé de meurtre au deuxième degré. Elle a bel et bien été victime d'un homicide, c'est ce que la police de Québec a confirmé. Alors, Abraham Gonzalez Leon a comparu aujourd'hui au Palais de justice de Québec pour meurtre au deuxième degré. C'est un corps qui avait été repêché, comme je vous dis, par les plongeurs de la Sûreté du Québec. Et c'est absolument tragique, là. On pense qu'elle a été victime de meurtre. On est vraiment là-dedans. Donc, on a confirmé que la femme de 44 ans était la conjointe d'Abraham Gonzalez Leon. Il avait d'abord été arrêté pour voie de fait, causant des lésions la semaine dernière. Il était de retour en cours il y a 43 ans. Et voici les nouveaux chefs d'accusation, donc celui de meurtre au deuxième degré, pour un événement qui serait survenu entre le 7 et le 9 janvier. Il faut encore avoir plus d'informations, mais on est là-dedans. L'accusé était physiquement dans le box et il était, bon, on dit, impassible. Il faisait juste hocher de la tête pendant les explications de son dossier. Et ça, c'est reporté au 9 mars prochain. Pour plus d'informations, il va falloir suivre le dit dossier.
Oui, la victime qui s'était confiée à des proches, justement, qu'elle craignait pour la sécurité de son enfant, là, en raison de sa relation, ouais, avec cette personne. Une petite dernière pour la route?
Bien, Québec va déclencher une élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi. Ça aussi, c'est une nouvelle qui prend d'assaut notre journée aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a indiqué le premier ministre François Legault qui va signer aujourd'hui le décret ministériel pour un scrutin. Ça va avoir lieu le 23 février prochain.
Au sport, le Canadien affronte le Wild du Minnesota ce soir au Centre Bell. Le Wild qui l'a emporté 6-3 hier contre les Maple Leafs de Toronto. Le match est à 19h sur les zones d'RDS avec Pierre Houde et Marc Denis. Et au sport collégial américain, au football, c'est une victoire hier des Hoosiers d'Indiana, 27-21 sur les Hurricanes de Miami. Ça leur fait un dossier de 16 victoires et aucun revers pour la saison. C'est un premier championnat national en carrière pour l'Université Indiana. Fernando Mendoza a bien fait avec 186 verges de gain. Ça devrait être le premier choix au prochain repêchage de la NFL. Après la pause, Rémi Villemur, l'excellent animateur au 99.5 Montréal, vient s'installer. Bon, on va parler un peu de la course à la chefferie, à la CAQ, mais on va surtout parler de cette conférence, Pascal, oui, qui a été annulée à l'Université d'Ottawa parce qu'il y avait un spécialiste qui voulait nous parler de pourquoi il y a des animaux qui sont masculins et pourquoi il y en a féminins. Puis là, ben, il y a eu une montée de lait des gens en disant « Mais ça n'a pas d'allure. »
Ah, c'est parce qu'on les obligeait à être là, non?
Non, non,
on
non.
On les séquestrait
non,
dans
non,
la pièce.
Non, 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 non. Non? Non, ça n'a pas d'allure. On a juste parlé masculin, féminin. On fait quoi avec les animaux non-binaires? Rémi Villemur nous explique ceci après la pause. vous ne rêvez pas, chers auditeurs et auditrices de Boulevard 102.